matinale du soir sur Europe 1, on décortique l'actu avec les grandes voix. Thierry Dagérel, vous êtes avec Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, et Bernard Stananès, président de l'Institut Elab.
Et on est ravis de vous recevoir sur Europe 1. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Mobilisation générale du gouvernement sur le Covid. Olivier Véran était, on l'a dit, dans les Yvelines cet après-midi. Et si on allait vers le port du masque en extérieur? Écoutez-le.
L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais depuis quelques jours un risque sérieux de transmission aérosol du virus, ce qui veut dire que le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, je le recommande. Néanmoins, il faut que les consignes soient claires et donc nous travaillons avec les autorités de santé, que nous saisissons régulièrement sur ces questions en fonction des données de la...
Bernard Stananès, c'est la prochaine étape, ça?
Bah écoutez, en tout cas, ça paraît surprenant.
On sent une agitation.
On sent, j'allais dire, pour une formule que les juristes connaissent, ouais, l'idée d'un changement de jurisprudence. C'est vrai que c'est un peu la première fois que l'on entend.
Il y a eu le hof d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres, visiblement, ce que nous a confirmé la ministre Vidal à l'instant.
Mais c'est vrai que cette idée de rendre obligatoire le masque dans l'espace public et de dire, effectivement, que de reprendre la recommandation de l'OMS sur le risque par aérosol est nouveau et donc va sans doute inquiéter considérablement les Français. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a un risque d'incohérence parfois perçue entre certaines mesures. Hier, par exemple, on a appris, alors dans le cas avec un respect de certaines jauges, que les foires et les salons allaient pouvoir, en grande partie, de manière très encadrée, reprendre. Et on se dit, mais comment les foires et les salons peuvent reprendre si on doit porter un masque? On a vu des images alors de manifestations qui n'étaient pas autorisées, notamment de soirées nocturnes, de soirées pour les jeunes, où là, vraiment, on voyait que les barrières de sécurité, les gestes barrières n'étaient pas respectés. Donc, le risque pour le gouvernement, ce n'est pas tant de se prononcer de manière aussi ferme, c'est qu'il y ait un soupçon d'incohérence.
Un manque de message clair, Bruno Dive, selon vous aussi?
Oui, je crois qu'il y a surtout une inquiétude du gouvernement qui a été, si j'ose dire, vacciné au mois de mars. Mmh. C'est le fait de réagir un peu trop tard et donc d'avoir un train de retard. On voit aujourd'hui Éric Ciotti dans une interview au Monde, qui est président de la commission d'enquête, et qui dit que, bon, sans être trop accusatoire, il dit que le confinement, il aurait eu lieu une semaine plus tôt, ça aurait quand même été mieux. Donc, on voit bien que le gouvernement ne veut pas à nouveau avoir un train de retard et qu'il envisage un certain nombre de mesures. Évidemment, il n'est pas question, en tout cas pour le moment, et je pense que ça ne se fera pas de manière générale de reconfiner, mais un certain nombre de mesures plus généralistes, mais comme le dit Bernard, ils tâtonnent. Quoi. Ouais. On a l'impression que ce sont des ballons d'essai. On a vu ça, Emmanuel Macron.
Il ne faut pas trop faire peur, mais en même temps, il y a des choses. Il y a 143 foyers en France à l'heure où on se parle.
Oui, donc, on n'est quand même pas dans la situation du mois de mars. Hein.
Et foyer, mais ça veut dire qu'il y a contrôle. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Il y a une inquiétude. Ouais. Je crois qu'il y a d'abord une inquiétude du gouvernement sur la situation sanitaire, et c'est bien légitime, mais aussi l'inquiétude d'être accusé une nouvelle fois d'avoir réagi trop tard.
Mais vous, Bruno, qui représentez ce soir Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine, on le sait, est concernée par ces foyers. Vous sentez auprès des autorités une tension, une mise en place, une préparation?
Alors, non. Enfin, de ce qu'on voit, de ce que je vois dans les régions, on est moins concernés, nous, par exemple, que la Bretagne, où il y a eu ce qu'on appelle quelques clusters. Ouais. Et Bernard l'évoquait à l'instant, notamment sur des problèmes sur la presqu'île de Quiberon. Là, le sujet, plutôt les incendies de forêt en ce moment, qui est plus traditionnel. Mais il y a une vigilance qui est forcément peut-être plus forte qu'au mois de mars, parce qu'il y a tous les touristes, il y a les estivants, il y a plus de monde. Et puis, il y a le fait qu'en effet, ce sont des régions, l'Ouest et le Sud-Ouest, qui ont été relativement épargnées par l'épidémie au plus fort du pic et qui maintenant peuvent être un peu plus touchées.
Dû à un brassage des populations avec les vacances, etc. C'est ça le risque.
Le risque
dans les 15 prochains jours.
Le brassage et le retour ensuite dans les régions d'origine des vacanciers que nous sommes ou que nous serons. Et évidemment, c'est un grand risque. Donc Bruno a raison, le gouvernement ne peut pas donner l'impression que lui aussi, il part en vacances sans avoir bien anticiper ce risque, d'autant que, alors Olivier Véran a refusé de parler de deuxième vague à ce stade, et effectivement, il doit avoir des chiffres pour ne pas utiliser ce terme-là, mais le gouvernement prépare par ailleurs aussi, on le sait, un plan de relance, plan de relance économique qui doit être annoncé sans doute autour de la fin août, et c'est vrai que s'il y avait des risques forts épidémiologiques, ça remettrait aussi un peu à mal tous les efforts d'une reprise qui, en France, apparaît pour l'instant parfois assez soutenue dans certains secteurs.
tout faire pour éviter un nouveau confinement dans tous les cas de figure.
Exactement.
Même si ça,
et justement, le mot reconfinement n'est pas tabou dans la voix de Jean Castex, de reconfinement local. On peut arriver à ça, Bruno Dive ?
Oui, peut-être, oui. Ce qui serait un paradoxe.
Comme on le voit d'ailleurs.
L'ex-monsieur déconfinement devienne le monsieur reconfinement. Mais je pense que s'il y a un reconfinement un jour, il sera local. Mais après tout, ça a déjà été le cas. Hein, dans l'Oise, vous vous souvenez, au Contamine, dans la Haute-Savoie.
Exact,
il y a déjà des petits foyers de confinement avant le confinement général. Mais je ne pense pas, ne serait-ce que pour des raisons économiques, qu'on retourne vers un confinement généralisé.
Avant de marquer une pause, on va tout de suite prendre Antoine au 39-21. Bonsoir Antoine.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous nous appelez de Toulon.
Exactement, voilà.
Et l'on vous
donc,
écoute.
Voilà, donc moi j'aurais une question, disons relativement simple à poser.
Allez-y.
Quand on écoute un petit peu les médias, radio ou autres, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau deuxième vague qu'on ne veut pas vraiment citer, mais qu'on n'arrête pas d'en parler.
Qu'on évoquait, ouais.
Est-ce que les différents ministères, comme par exemple la santé, l'intérieur ou les affaires étrangères, est-ce qu'ils ont envisagé une coordination ou une action commune entre ces différents ministères de façon à que tout le monde travaille dans le même sens et dans une certaine cohérence?
Allez, voilà, Bruno Dive. Ben Bruno Dive vous a écouté et vous répond, Antoine.
Je crois qu'elle est plus qu'envisagée et elle est effective. Et heureusement, nous avons d'abord, il y a un premier ministre qui est sorti de l'ombre en étant une espèce de coordinateur du. Alors là, c'était du déconfinement, on vient d'en parler. Donc, il a l'habitude de faire travailler un certain nombre de ministères ensemble. Et puis, de toute façon, c'est le rôle du premier ministre de faire travailler les différents ministres ensemble. Et il y a je le rappelle, un conseil de défense, le nom exact m'échappe, de défense sanitaire.
C'est ça, voilà.
Non, parce qu'il y a le conseil de défense écologique, mais il y a un conseil qui se réunit
régulièrement. Qui peut se réunir régulièrement, y compris même à distance.
En général, à l'Élysée. Voilà.
Et qui va pouvoir se réunir pendant l'été.
Notamment les ministres que monsieur a cités.
Et puis, on peut bien sûr, il y a eu de nombreuses critiques, Bruno évoquait la commission parlementaire, il y a eu de nombreuses critiques sur la manière dont le gouvernement a géré le pic de la crise. Un peu moins d'ailleurs, Éric Ciotti dit que sur le déconfinement, il y a moins de critiques à faire. Mais on peut aussi, en dehors de toute considération politique, espérer qu'il y ait ce qu'on appelle un retour sur expérience et que les erreurs qui ont été commises face à une crise qui a, c'est vrai, surpris par son ampleur et sa gravité tout le monde, qu'on ait appris de ces crises et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Et c'est un enjeu, vous savez, pour toutes les entreprises, par exemple, qui sont exposées à ce qu'on appelle la communication de crise. Toutes les entreprises sont exposées à ces situations. Mais le sujet, c'est de savoir comment on progresse pour éviter les prochaines crises.
Alors, le gouvernement et l'ombre du Covid sur cet été un peu particulier. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1 avec vous. 39-21, tout de suite.
18h41, le débat des grandes voix sur Europe 1 se poursuit dans votre grand journal du soir avec vous, Thierry Dagirel. Autour de vous aujourd'hui, Bernard Sananès, président de l'Institut ELAB, Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, et vos réactions au 39-21.
Et on va s'arrêter un instant sur la communication, parce qu'on en parlait à l'instant avec Bernard Sananès, on vous raconte un peu les coulisses, mais c'est vrai, comment communiquer? On a le sentiment que le gouvernement fait beaucoup, qu'il y a beaucoup de sorties, Olivier Véran dans l'après-midi, etc. Est-ce qu'il faut faire peur? Est-ce qu'il faut communiquer? Est-ce qu'il faut être présent sur le terrain? Trop? Pas assez? Qu'est-ce qu'on fait, Bernard Sananès?
Alors, vous savez, d'abord, il faut se dire, on intervient dans un contexte qui est particulier, c'est un contexte qui est marqué par la défiance. La parole publique a été extrêmement mise à mal pendant cette crise. On a, par exemple, plus d'un Français sur deux qui ne croit pas tout simplement aux statistiques sur le coronavirus ou aux propos des chercheurs.
De
donc, c'est dans ce registre
de...
que l'on a, qui est de se dire, la parole publique, on la met à distance. Donc, comment être entendu? Il y a la question du registre, de la tonalité de la communication. Et c'est vrai que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas été dans cette période, il l'avait été il y a deux mois, sur une communication, j'allais dire, qui inquiète, qui pose de manière très dure, par exemple, les risques des soirées pour les jeunes. Et c'est très dur de communiquer vis-à-vis des jeunes. Par exemple, à l'inverse, ça a été fait en matière de sécurité routière. On a choisi, au cours des dernières années, des campagnes de sécurité volontairement très impactantes qui ont eu, on le sait, des effets parce qu'elles ont saisi littéralement ceux qui les regardaient et qu'elles ont eu un impact. Donc, comment parler aux différents publics? Comment remettre en question le danger réel, notamment pour les jeunes? C'est un gros enjeu. Alors, pour répondre à votre question, je ne pense pas que le gouvernement en fasse trop pour l'instant, Mais par contre, il doit continuer à être extrêmement présent et extrêmement clair dans sa communication dans les prochains jours qui sont décisifs, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Bruno Div, on voit par exemple les autorités belges qui ont pris de nouvelles mesures. Elles aussi, désormais, pendant les quatre prochaines semaines, les Belges ne pourront fréquenter que 5 personnes extérieures à leur foyer. Est-ce qu'on peut arriver à prendre des décisions aussi compliquées à prendre ?
Oui,
en France,
je ne sais pas comment vont faire les autorités belges pour aller compter ce que chaque citoyen belge, le nombre de personnes que fréquente chaque citoyen belge. Ça me paraît absolument orwellien, cette affaire. Ouais. Ou alors on surveille les gens, en effet. Mais cela dit, on voit bien autour de nous, là, on a quand même une impression d'égout qui se resserre.
C'est ça,
la France, cette espèce, encore une espèce
en Europe,
en ce moment, d'un îlot
exactement.
Relativement épargné. Et puis, bon, il y a l'Espagne, la Catalogne, évidemment, où on nous dit de ne pas aller. La Belgique, vous venez d'en parler. L'Allemagne, où on a voit une petite recrudescence. Donc, on sent bien qu'à nouveau, les taux se resserrent un peu. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse prendre ce genre de mesures. Qui serait coercitif. Ou alors, il faut faire appel au civisme de chacun et éviter de rencontrer trop de monde. Mais avec le masque, il y a quand même une grande différence avec le mois de mars, c'est qu'aujourd'hui, on a des masques. Oui, et l'autre différence, c'est que le gouvernement nous dit qu'il faut en porter, alors qu'il y a 6 mois, il nous disait que ce n'était peut-être pas nécessaire parce qu'il n'y en avait pas. Mais il y a quand même, à mon avis, le port du masque, et là, je crois qu'il faut insister là-dessus, en effet, dans la communication, et ça nous concerne aussi, nous, médias. Le port du masque est quand même vraiment le minimum et évite un certain nombre, tout un tas d'autres mesures beaucoup plus contraignantes, à mon sens.
On termine avec vous, Bernard.
On observe d'ailleurs, on le voit bien dans les rues, le masque est revenu. Ne voyait plus il y a 3 semaines. On voit bien que depuis 15 jours, le masque est revenu dans les commerces, dans les restaurants, dans les espaces publics, et qu'il y a quand même un civisme. Après, il y a cet arbitrage de on est en vacances, on a connu un moment difficile,
c'est
tout
compliqué.
À fait normal, envie d'en
bien
profiter,
sûr,
mais le
sûr.
Risque est là et le gouvernement a raison de le rappeler, de le marteler.
Allez, on passe à cette deuxième partie des Grandes Voix avec vous, on va faire un petit bilan, ça fait quoi maintenant, 15 jours, 3 semaines qu'on a ce nouveau gouvernement avec 11 nouveaux secrétaires d'État depuis dimanche soir dernier. Allez, on s'arrête un instant sur le cas Gérald Darmanin, il en fait trop. Je crois qu'il en est à 20 sorties depuis qu'il est à l'intérieur.
Bah, il fait Gérald Darmanin
tous les jours sur le terrain, trop.
Il fait ce que,
avec des couacs.
Il fait ce que Bruno lui a appris son premier patron, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy.
C'est ça.
Il ne faut pas oublier que Nicolas, il a été le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. Aux primaires de la droite, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans. Et donc, il fait comme lui, comme Manuel Valls, présence sur le terrain,
mais trop,
activisme.
Trop, par exemple, hier, devant la commission des lois, quand il dit, quand j'entends violence policière, je m'étouffe, référence, bien sûr.
Il est, comme disait Louis XIV, il est toujours malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de trop,
c'est ça.
Justement. Mais bon...
Il y a eu 2-3 récentes sorties avec 2-3 polémiques derrière. Est-ce que c'est vraiment utile en termes de...
Évidemment, de toute évidence, c'est un mot malheureux. Il ne l'a pas fait exprès, je pense. On ne va pas l'accuser de ça. Mais ça, c'est, je crois que quand on est un peu sous pression, il y a forcément une espèce d'inconscient qui ressort. Et le mot, vous savez, c'est comme Jean-Claude Gaudin qui avait dit après l'affaire de la rue d'Aubagne, je suis effondré. Donc il y a des espèces de lapsus qui sont commis quand quelqu'un est sous pression. Donc on voit bien par ce propos que Gérald Darmanin est sous pression, il en fait trop. Je ne sais pas, il faut quand même renouer le lien, au moins avec la police, déjà, qui a été quand même
sérieusement
abîmé. Ce qui a
été fait dans les premiers pas, avec en plus des annonces, avec de l'argent.
En plus, il y a des annonces, il y a un peu de concret.
Mais ça, justement, ça vient un peu perturber le...
À force de parler, hier, il était entendu par la commission
des lois.
Donc il fallait bien qu'il s'y rende, donc il parle. Bon, il a commis ce lapsus. Moi, je ne dirais pas qu'il en fait trop. Par contre, c'est vrai qu'il est, comme il est sous pression, et ça, c'était une grande leçon de Sarkozy, quand on est sous pression sur un sujet, il faut créer l'actualité ailleurs. Donc, il faut faire la météo, comme il disait. Et donc, Gérald Darmanin, il essaie de faire la météo sur un autre sujet que son affaire, et il a du mal.
Bernard Sanalès.
C'est compliqué pour Gérald Darmanin, d'abord parce qu'il y a cette affaire, effectivement, qui... sur lequel il est interrogé à chacune de ses sorties. Et deuxièmement, il faut le dire aussi, parce que pendant les premières années du quinquennat, le sujet de la sécurité, je ne dis pas...
Le fameux régalien,
voilà,
en effet,
il n'a pas été porté comme une priorité.
C'est un enjeu pour la présidentielle en plus qui arrive et un espace à occuper, bien sûr.
De l'exécutif. Donc je dirais, il faut qu'il rattrape un peu le temps perdu, qu'il montre que cet exécutif a compris que l'enjeu de sécurité... Et d'ailleurs, vous savez, on dit souvent... la sécurité, c'est un thème de droite. C'est vrai que les électeurs de droite sont très sensibles, mais la sécurité, c'est un thème qui, dans l'opinion, questionne, concerne 70 à 80% des Français, par exemple, notamment dans les milieux populaires. Ouais. Donc ce n'est pas un thème clivé politiquement. Il y a des réactions politiques différentes. C'est vrai que l'enjeu est important pour Gérald Darmanin, mais c'est vrai aussi que c'est extrêmement difficile pour lui. La comparaison, finalement, avec Nicolas Sarkozy, elle n'est pas forcément à son avantage. Pourquoi ? D'abord parce que la société est plus violente qu'il y a 15 ans. Et donc, les phénomènes ne sont pas les mêmes. On le voit bien, on le voit dans les images, on le voit tous les jours. Et deuxièmement, là aussi, la défiance à l'égard de la parole publique fait qu'on a mis une distance. Quand Nicolas Sarkozy ou Charles Pasqua s'exprimaient, ces paroles-là avaient du crédit. On disait « ils vont le faire ». Aujourd'hui, l'opinion est telle face à la parole de tous les hommes politiques, ce n'est pas simplement vis-à-vis de Gérald Darmanin, se disent « ok, il parle, mais qu'est-ce qui va changer vraiment ?»
Qu'est-ce qui va changer vraiment ? C'est la question qu'on va se poser dans un instant. A tout de suite, vous restez sur Europe 1. Merci à vous.
18h51, la suite du débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral, Bruno Dive, éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, Bernard Sananès, président de l'Institut Elab et vous au 3921.
Et on parle ce soir et maintenant de ces trois premières semaines de ce gouvernement Castex. On va parler surtout de l'après et de la rentrée dans un instant. Alain nous a appelé au 3921. Bonsoir Alain, vous nous appelez de la Baule.
Bonsoir Europe 1 et bonsoir les grandes voix.
Chanceux
merci
vous
de
êtes.
Votre émission.
À la Baule.
Absolument, il fait très beau à la Baule. J'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt. Je m'interroge quand même sur l'ancrage très droitier de ce gouvernement au terme de ces trois premières semaines. J'en veux bien sûr l'origine politique de Jean Castex, les propos récents de Gérald Darmanin, dont bien sûr j'entends qu'il est sous pression, comme vous l'avez dit, mais il y a quand même l'omniprésence de la thématique sécuritaire dans le discours. Il y a un certain nombre de prises de position qui me semblent effectivement très ancrées, comme à droite. Est-ce que c'est pas finalement là que se trouvent les réserves de vote en perspective de l'élection présidentielle à venir? Est-ce que c'est pas un choix stratégique de ce gouvernement? Et en même temps, parce que c'est vraiment sur le en même temps qu'a été... constitué que Macron a été élu. Il y a quand même des signes ostensibles vers les écologistes avec la nomination de Barbara Pompili. Donc, quelle est la cohérence finalement idéologique de ce gouvernement entre un ancrage très à droite et puis d'autre part des signes ostensibles vers l'électorat écologiste?
Allez, Bruno Dive fait une première réponse. Alain, merci.
Oui, monsieur a raison. Il y a visiblement l'offensive vis-à-vis de la droite se poursuit parce que c'est comme ça qu'Emmanuel Macron pourra se qualifier au second tour.
Exact.
Et donc, probablement, avec de bonnes chances, s'il est qualifié, d'être réélu. Donc, il poursuit cette offensive par des nominations qui ne sont pas seulement celles des ministres, mais aussi beaucoup de conseillers dans les différents ministères. Et par la politique, on vient d'évoquer la sécurité. Monsieur a fait une excellente analyse. Il tient le gouvernement tient
Est-ce que c'est viable finalement? Est-ce qu'on peut faire une relance économique à la rentrée?
Oui, parce qu'on
va se positionner à la rentrée.
Il y avait l'interview de Bruno Le Maire dans le journal du dimanche qui explique tout à fait que la relance, un facteur de relance, c'est la transition
écologique.
Et on peut faire de l'écologie. Sans être complètement à gauche aussi.
Ouais, bien sûr.
On peut l'être un peu, comme les Barbara Pompili, qui de temps en temps donnent des signaux, comme je l'ai fait chez vous, il y a ou avant-hier, en prenant un peu ses distances avec Darmanin.
Tout à fait.
Mais on n'est pas obligé non plus. On voit bien qu'Europe Écologie, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ne font pas que de l'écologie, qui font du féminisme, qui font du révisionnisme historique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, il peut tenir les deux bouts de la chaîne.
Merci Alain de nous avoir contactés depuis la Baule. Merci beaucoup Bernard Sananès. Justement, ça sera l'objet de cette rentrée. Est-ce qu'on peut faire à la fois une relance économique, avoir les plans sociaux, maintenir l'emploi, et puis de l'autre, en effet, concéder pas mal de choses à l'écologie? Ça coûte cher et il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre.
C'est vrai, mais c'est une forte attente. On le voit bien dans les enquêtes que l'on a fait après le Covid. On vient de sortir un enquête qui s'appelle Reboot ou Reset. Est-ce qu'on veut redémarrer ou réinventer? Et on voit bien qu'il y a bien sûr, vous avez raison, cette inquiétude face à la crise économique. Les Français sont très inquiets de perdre leur emploi, inquiets de voir leurs revenus baisser, mais qui n'ont pas forcément envie que ça redémarre quand même comme avant. Ils ont intégré, pour 7 Français sur 10 par exemple, qu'il faut changer de modèle et qu'il faut intégrer la dimension écologique. Mais s'installe un nouveau risque, une nouvelle peur, c'est que finalement l'écologie soit une nouvelle fracture. Non pas entre ceux qui voudraient et ceux qui ne voudraient pas, parce qu'aujourd'hui on a 8 Français sur 10 qui considèrent qu'il est urgent d'agir, mais entre ceux qui considèrent qu'ils peuvent, parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils en ont ce qu'on appelle le capital socioculturel, et ceux qui se disent, nous, on ne pourrait pas parce que notre emploi va être menacé, parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat pour suivre. Et si l'écologie devenait une nouvelle fracture, à ce moment-là, ce serait évidemment un risque extrêmement fort. Donc voilà, l'attente de la société, elle est assez claire en la matière.
On finira là-dessus, messieurs, mais changer ce logiciel à 600 jours, moins de 600 jours maintenant de la présidentielle, soyons honnêtes.
Oh, c'est pas un changement complet de logiciel, parce que n'oublions pas quand même la nomination de Nicolas Hulot dans les premiers temps du quinquennat. C'était quand même un signal fort, même si les choses n'ont pas suivi suffisamment, en tout cas aux yeux de Nicolas Hulot. Et d'autre part, on voit bien que la politique, les signaux envoyés à la droite, ça ne date pas du remaniement.
Bien sûr. Déjà le cas. Mais l'écologie, les territoires, la place des territoires, tout ça, c'est vraiment c'est gros à mettre en place.
C'est un changement de méthode, plus de dialogue.
Et va se poser une question, c'est la question du calendrier, vous avez raison, et de se dire, est-ce qu'on peut avoir des résultats dans cette période?
Et exactement, pour arriver à la campagne.
Vous parliez tout à l'heure des mots, vous disiez, est-ce que ce ne sont que des paroles? Est-ce qu'il va y avoir une traduction concrète? Et c'est ça, en fait, sur quoi se jouera sans doute une partie de la campagne électorale. Est-ce que ce gouvernement, cet exécutif, a réussi à obtenir, dans des délais qui étaient courts cette fois-ci, des résultats concrets pour les Français?
Bernard Sananès de l'Institut ELAB ce soir et Bruno Dive de Sud-Ouest. Grand merci à vous deux, messieurs. Merci beaucoup.